Donc, pâté à la viande, vous autres, vous avez déjà pris de l'avance, si ma mémoire m'est fidèle, c'est ça. Vous, avez, ouais. Vous faites quoi? Vous les congelez? Vous les faites? Vous les congelez?
Exact. Est-ce qu'ils sont un week-end là où on donne tout ce qu'on a? Puis,
C'est pré-cuit? Pré-cuit ou vous les congelez comme ça puis vous les faites cuire quand ils décongèlent tranquillement, pas vite?
C'est pré-cuit, ils sont au four. Donc, quand tu les prends du congélateur, ouais. T'as juste à les faire réchauffer.
T'as juste à les faire réchauffer. Ouais. Ma mère faisait ça, moi. Elle en faisait... Écoute, quand elle se mettait dans sa bouffe du temps des fêtes...
C'est à peu près ça.
Ouais, elle en cuisinait une moyenne shot. Je sais pas combien vous en faites, vous autres, là.
On a fait 7-8 à date.
Bon, 7-8. Ça, 7-8, là, ça, c'était de la petite bière, là.
Ouais, non, c'est
7-8, elle filait pas cette journée-là. Elle pouvait... Non, mais elle pouvait en faire des dizaines et des dizaines. Ça va vite. Quand tu reçois toute la famille, nous autres, on était déjà 9 chez nous, tu reçois la famille, là, c'est pas long, là, que juste dans une fournée, là, t'en passes 7-8. Mais en plus de ça, elle faisait des tartes avec des fruits qui étaient en canne à l'époque. Fais-tu des fruits en canne?
Oui.
Il y a des bleuets, il y avait des fraises.
Des pêches, des fois.
Non.
À mon époque, il y avait des pêches, là, mais peut-être pas.
Ouais, puis elle faisait des tartes à farlouche.
Okay. Ah, ouais, c'était
à farlouche,
bon,
des tartes aux raisins.
C'est quoi, ça, farlouche?
La farlouche, c'est une espèce de mélange sucré avec de la mélasse épaissie, là, puis je pense qu'il y avait des raisins. Là-dedans. Oui, il y a des raisins. Oui, c'est très bon.
Ouais,
j'adore ça. Je vais peut-être m'en faire cette année, d'ailleurs. Hein?
Tout ça passe dans l'estomac.
Oui, ça, mais tu finis toujours avec une crêpe de menthe verte.
Oui, ben oui.
Tu fait que là, tu as pris du pâté à viande, de la tarte à farlouche, et tu finis avec une crêpe de menthe verte.
Avec un F majuscule. Là.
Et tu, oui, tu vas te coucher avec ça après ça. Merci, Marc-André. À plus tard. Il est 13h08.
Midi plus. Au 106.9 Mauricie. Voici Paul Hood.
Allô, Paul.
Bonjour, Robert.
De la tarte à la farlouche.
Oui.
Tu sais quoi?
Oui, ouais. J'en ai déjà mangé, c'est très bon.
C'est bon, hein?
Ben oui, bien
c'est
sûr.
C'est ça. C'est avec des raisins, hein?
Ben
c'est,
oui.
C'est des raisins, ben c'est ça.
Exact.
Pas trop. Pourquoi tu m'as demandé Johnny B. Good?
Parce que... Ah, ben écoute, veux-tu qu'on l'écoute un extrait tout de suite?
À trois, on fait un décompte de 3, 2, 1, et puis...
On y va.
Zéro.
Le grand succès de Chuck Berry se trouve sur un petit disque de 30 cm, un disque d'or qui est emporté par la petite sonde Voyageur 2. Je veux te parler de l'une des plus grandes réussites de l'histoire de la NASA, l'incroyable voyage des sondes Voyageur. Voyageur 2 a été lancé le 20 août 1977, Robert. Ça te faisait quel âge, ça?
Ça me faisait pas vieux, là. Ça me faisait quoi, une douzaine d'années, peut-être?
Hey, tu te rends compte? Ouais. Et quelques jours plus tard, le 5 septembre 1977, on a lancé Voyageur 1. 41 ans et demi plus tard, les deux petites fonctionnent encore très bien. Elles ont perdu un peu de puissance. Mais hier, Voyageur 2 a officiellement atteint ce qu'on appelle l'espace interstellaire, au-delà de la zone d'influence de notre étoile, le Soleil, ou de ce qu'on appelle le vent solaire.
Ce qui m'impressionne, Paul, là-dedans, c'est comment ils font pour le savoir. Elle est tellement loin, elle est tellement loin, il ne doit pas y avoir de communication possible.
Oui, il y a communication quotidienne. Et justement, on prend un immense radiotélescope. Tu peux t'imaginer ce qu'on est obligé de filtrer dans le bruit de fond de l'univers, autrement dit, pour aller capter ce qu'on appelle les signaux télémétriques de la petite sonde Voyageur 2.
Tu m'as écrit qu'elle est à 18 milliards de kilomètres de la Terre.
Exact. Hier, là, et qu'elle fonctionne toujours, chaque message de télémétrie qui est envoyé par la sonde Voyageur 2 vers la Terre met 2h16 à nous parvenir à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Ça prend 2h16. Un exemple, les rayons du Soleil qui nous parviennent ne prennent que 8 minutes pour atteindre la Terre. La petite sonde envoie sa télémétrie tous les jours. 2h16.
Ce qui est incroyable là-dedans, c'est qu'on se sert de technologies qui datent d'une quarantaine d'années.
Eh bien, voilà. Là, tu m'amènes sur un point. C'est probablement dans l'histoire de la NASA, les sondes Voyageurs 1 et 2, des petites sondes, le meilleur rapport qualité-prix de l'organisme gouvernemental américain qui est la NASA. Les deux petites sondes, Robert, ont coûté moins $1 milliard, 865 millions pour être plus précis. Mais attention, depuis 1972, au moment où on a commencé à penser le projet, donc ça fait 46 ans, pour 865 millions de dollars, je peux te dire que la station spatiale coûte beaucoup plus cher, ou encore d'autres entreprises comme les petits robots qui ont été envoyés sur Mars dernièrement.
Oui, mais il y en a qui vont dire, Paul, ouais, mettons 1 milliard 800 millions, toi, tu trouves ça extraordinaire. Hein? Ils vont dire, mais ça sert à quoi? Ça nous rapporte quoi 40 ans plus tard?
Voyageurs 1 et 2 ont été les deux premières sondes à nous rapporter des images exceptionnelles des grosses planètes. Les planètes joviennes, qu'on appelle la plus grosse planète, Jupiter. Voyageur 2 l'a survolée en avril 1979. Elle a poursuivi sa course et elle a survolé Saturne en 1981, Uranus en 1985, Neptune en 1989, et elle continue encore à transmettre de l'information aux confins du système solaire. Parce que techniquement, elle n'est pas encore libérée à 100% de ce qu'on peut appeler le système solaire, c'est-à-dire l'influence du Soleil. Il lui reste à traverser un nuage qu'on appelle le nuage d'Oort. Ça va lui prendre 30 000 ans, Robert.
Non, mais ça nous donne, en tout cas, une petite idée des dimensions de l'univers.
Exact. Et la chanson de Johnny B. Goode qu'on a fait entendre, elle se retrouve sur un disque d'or qui contient des images, des sons, des photographies de la Terre, le cri d'un nourrisson, les pleurs d'êtres humains, de la musique classique, des enregistrements sonores du bruit du vent, du tonnerre, de tous les animaux de la Terre. On a placé ça sur un disque de 30 cm, symboliquement.
Non, c'est pas symbolique. C'est qu'un jour ou l'autre, il y a des extraterrestres qui vont écouter le disque en question.
Exact.
Et qui vont revenir nous visiter en disant, c'est quoi l'idée, là?
Ben, c'est un peu ça.
C'est quoi l'idée, là? Vous voulez nous dire quoi? Voulez-vous nous inviter?
Bien, c'est un peu ça. Si jamais la sonde est récupérée, parce qu'elle est partie à tout jamais, on prévoit que le contact, Robert, avec les deux sondes, Voyageurs 1 et 2, sera perdu à tout jamais, et ça va être un moment triste, ça, au Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, vers 2025 ou 2027, après 50 ans de service. 50 ans de service! Ça, là, dans le monde actuel, où la pérennité de nos objets, c'est 2 ans, 3 ans, on change de cellulaire, la laveuse brise après 18 mois, les deux petites sondes fonctionnent encore à merveille, 50 ans plus tard, ou presque.
C'est assez incroyable.
Et ça te donne une idée.
Oui.
Elle n'est que dans l'entourage de notre système solaire. On n'est pas là à des années-lumière. Elle va passer dans 40 000 ans, la sonde, à 1,7 années-lumière d'une étoile qu'on appelle Ross 248, dans la constellation d'Andromède. Et on perdra le contact à tout jamais vers 2025-2027.
Est-ce que dans l'intermède, là, est-ce qu'elle nous envoie des photos, du son? Qu'est-ce qu'on peut...
Non, il n'y a plus moyen, là.
Il n'y a plus moyen.
Parce que le signal est tellement faible qu'il n'arriverait pas à alimenter l'une des ampoules de ton sapin de Noël pendant plus d'une seconde.
OK.
Et là, on a mis à contribution le système d'appoint des batteries pour essayer de prolonger au maximum la vie des batteries et espérer qu'elle va continuer à envoyer quelques données sous forme de télémétrie vers 2025-2027. Ce sera la fin. Je tenais à t'en parler parce que ça nous ramène tellement à une dimension. Cette semaine, David Saint-Jacques a dit « Je vois la Terre comme étant une belle bille bleue. Inutile de dire que les sondes voyageurs depuis longtemps ne voient plus la Terre. »
Non, c'est fascinant. Puis moi, c'est sur les dimensions de l'univers. Tu vois, ils ont fait... Si tu pouvais comparer le voyage de la sonde en question à la dimension de l'univers, on pourrait comparer ça à la dimension d'un grain de sable seulement.
Ah oui, parce que l'une des deux sondes, Voyageur 2, justement celle dont on parle, qui est à 18 milliards de kilomètres au moment où on se parle, lorsqu'elle était à 6 milliards de kilomètres, elle a renvoyé une photo de la Terre. Eh bien, je pourrais te l'envoyer si tu veux et je te dirais, Robert, regarde attentivement. Ce n'est qu'un point, une tête d'épingle. D'épingle.
C'est incroyable.
Et il faut regarder la photo longtemps pour dire « Ah, c'est là, c'est la Terre. » Je te laisse en parler parce que je trouve ça vraiment...
Non, mais c'est vrai que c'est fascinant, Paul. J'adore ça, moi aussi. Est-ce que c'est encore pertinent de financer des opérations comme celle aujourd'hui en 2018?
Moi, je vais te dire une chose, comme je reviens là-dessus. Oui. Si tu regardes le coût d'opération, 865 millions sur 42 ans, 45 ans... C'est rien comparativement à ce que ça coûte pour envoyer un robot sur Mars ou peut-être éventuellement une mission vers la Lune ou vers Mars. Alors, comme je te dis, meilleur rapport qualité-prix, les deux petites sondes voyageurs, 1 et 2.
Dans l'émission tantôt, je présume que tu vas revenir sur l'affaire Roson.
L'affaire Roson qui est en plein développement, comme tu le sais. Jusqu'ici, le DPCP a rejeté la possibilité de 5 plaintes. Et je ne sais pas si ça envoie... un signal, parce que, évidemment, tout ça se fait à huis clos, dans le sens qu'on n'a pas de détails sur la façon dont le DPCP, qui n'a fait autre chose que d'annoncer qu'il y a 5 plaintes jusqu'ici qui ne sont pas recevables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de preuves pour le DPCP. Vers où ça va nous conduire? On en parle cet après-midi. De même que la disparition et probablement la mort de cette femme de 41 ans au Mexique. Une histoire mystérieuse. Son copain est revenu du Mexique le 5. Il s'est suicidé le 6, ici au Québec. Alors, nous allons...
Bon?
Oui, il s'est suicidé le lendemain de son arrivée. Okay. Et on est toujours sans nouvelles de cette mère de 2 enfants qui a séjourné sur la côte ouest du Mexique, à Los Cabos.
Bon, et puis Carey Price, c'est pas assez bon pour gauler ce soir?
Non, il prend un petit congé.
Petit congé.
Il prend un petit congé bien mérité.
Oui.
Écoute, le Canadien vise une fiche parfaite dans ce voyage-là.
Oui, mais il aurait dû garder le meilleur gardien de but, non? Je sais pas.
Bon, peut-être d'accord avec toi, parce que dans le fond... Mais c'est parce qu'il y a un autre match jeudi à Montréal.
Hey, à 10 millions par année, tu peux pas te faire deux parties de hockey, toi, à 2 jours de... Hey, non, écoute,
garde,
c'est fou, en fait.
Garde, Robert, toi et moi, on rentre pas 2 jours.
Non, on rentre à 3 jours.
Mais non!
Oui, bien mieux. Salut!
Salut! Au revoir!
À bientôt. À bientôt. Non, c'est, il fait des moyens chèques de paye, ça, 10 millions par année, là, si tu divises ça par 5 ans.
J'aime autant pas.
Non, mais lui, il est vraiment à 50 millions par année.
Oui.
C'est ça. Veux-tu que je te fasse un petit calcul? Pas 50 millions, 10 millions. OK? Ça fait pas mal de zéros.
Il
n'y
a pas besoin d'être payé aux 2 semaines. Hein?
Mettons, là, je vais te faire juste ça. Bon, puis...
Hein, Robert, il n'est pas obligé d'être payé aux 2 semaines.
Non, non, mais on va le mettre...
Un chèque de temps en temps.
Par semaine, là, ça y donne à chaque semaine 192 000 $.
Ah!
Veux-tu précisément 192,307? C'est ça. 192, c'est pas pire, par semaine?
C'est pas mal.
C'est ça. Fait que cette semaine, il va avoir gardé les buts pour 1 ou 2 matchs.
Oui, bien écoute, il a gardé les derniers matchs du Canadien, là, même le week-end dernier. Là, c'est sûr que tu vois, ce soir au Minnesota, c'est Niemi qui sera là. Jeudi contre les Hurricanes au Centre Bell, il devrait revenir.
Okay. S'il fait deux matchs...
Il y a un match samedi, je pense, c'est contre les Sénateurs, et lundi contre les Bruins.
C'est ça. Fait que si jamais il y a 2 matchs, mettons, dans la semaine, il garde 2 matchs. L'autre, c'est Niemi, là.
Mais oui, mais ben, c'est fait...
Écoute,
si je t'ai fait percer ce soir, on aurait dit qu'il n'est pas bon, puis le Canadien devrait l'échanger.
Ça y fait 96 000 $ par match, à peu près 100 000 bon. Pour garder les buts pendant... Ça s'est motivé son homme, ça?
Oui, oui. Lui, il aurait peut-être aimé garder les buts.
Il est payé même s'il ne garde pas les buts.
Ah oui.
Bon, à la pause, Jérémy Filosa, on va vous parler justement du match de ce soir dans 2 minutes.